Les parts actualités. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Seille en votre compagnie sur les ondes de Canal M pour vous présenter les paractualités du 15 décembre 2016. Les titres aujourd'hui, plus de soutien pour les aidants et plus d'informations pour la population. Monique Lefebvre, directrice d'Altergo, honorée par le gouverneur général du Canada. Québec, la demande pour le transport adapté explose. Une hausse de 81% de la population de 65 ans et plus à prévoir d'ici 2036 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Intimidation, obstacles et exclusions font souvent partie du programme scolaire des personnes handicapées. Et puis au Maroc, un nouveau service pour les personnes à mobilité réduite de l'ONCF, autrement dit des chemins de fer marocains. Deux entretiens encore aujourd'hui avec Doris Provencher, directrice de l'Association de groupes de défense des droits en santé mentale du Québec, et Nathalie Labelle, conseillère en inclusion sociale à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Alors, plus de soutien pour les aidants et plus d'informations pour la population. Un an après la mise en œuvre de la loi concernant les soins de fin de vie et le dépôt par le ministre Gaëtan Barrette du plan de développement 2015-2020 soins palliatifs et fin de vie, la Société canadienne du cancer, la SCC, rappelle que le Québec s'est doté du plan le plus complet au Canada en termes de soins palliatifs, mais qu'il faut continuer d'en faire plus en la matière. Il y a un an, la SCC avait applaudi l'instauration du droit aux soins palliatifs pour tous et salué les objectifs ambitieux du plan. La SCC constate aujourd'hui des avancées, mais est inquiète du retard pris dans la réalisation des mesures proposées. Les promesses faites aux patients et à leurs familles doivent être tenues dans les plus brefs délais. Lancé dans l'enthousiasme général et avec l'appui du milieu, le plan de développement 2015-2020, soins palliatifs et fin de vie, était accompagné d'une mesure phare. 4,5 millions de dollars par année pour une allocation répit destinée aux familles qui prennent soin d'un proche en fin de vie à domicile, soit l'équivalent de 1 000 dollars par famille, ce qui représente jusqu'à 35 heures de répit offert par des professionnels. Notre organisme était présent lors de l'annonce de cette mesure en novembre 2015, mais elle ne s'est pas retrouvée dans le budget en mars 2016 et elle ne semble toujours pas mise en œuvre. Pendant ce temps, les proches aidants sont à bout de souffle, relève Annie Jean, directrice générale Centre du Québec, et Richelieu Yamaska. Monique Lefebvre, honorée par le gouverneur général du Canada, c'était au début du mois de décembre, Altergo, est fière d'annoncer que le gouverneur général du Canada a décerné à Monique Lefebvre, directrice générale d'Altergo, l'une des distinctions les plus prestigieuses, soit la croix pour service méritoire. Remise par le gouverneur général du Canada le 25 novembre dernier, au nom de Sa Majesté la Reine et de tous les Canadiens, cette distinction vise à reconnaître une action qui a été accomplie avec professionnalisme exceptionnel ou présente un haut niveau de service ou une forme exemplaire de très grande valeur et dont le Canada a tiré des avantages souvent novatrices. Ses contributions méritoires novatrices sont un exemple à suivre et améliorent la qualité de vie d'une communauté. Cette distinction prestigieuse met en lumière tout l'accomplissement et le travail de Monique Lefebvre, qui depuis plus de 35 ans se fait porte-parole des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Cette mention honorifique met non seulement en lumière l'engagement exemplaire de Monique, mais également l'importance d'agir en faveur de l'accessibilité universelle et par le fait même de favoriser une société plus inclusive pour tous, a affirmé Élise Blais, présidente d'Altergo. Elle est directrice de l'Association de groupes de défense des droits en santé mentale du Québec et elle a fait publier une lettre dans le Soleil le 10 décembre dernier pour obtenir de meilleurs services en santé mentale. Nous allons en parler donc avec Madame la directrice Doris Provencher. Bonjour.
Bonjour Madame Fay.
Bonjour Madame Provencher. Alors voilà, donc il y a, c'est paru dans le point de vue, hein, le Soleil, et c'est, en fait vous avez beaucoup pensé à écrire ce point de vue-là suite au drame qui est arrivé à cause, hein, disons-le ça, mais bon, de ce garçon Frédéric Gingras, hein, qui malheureusement, bon, était une personne on le savait qu'il y avait des limitations, une déficience intellectuelle assez sévère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été, d'après vous, il a été un peu trop abandonné à lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé?
À ma connaissance, c'était pas tant un problème au niveau déficience. Il y avait une difficulté, d'ordre plus psychiatrique, si
d'accord,
on veut.
Oui.
Et il y avait aussi des difficultés au niveau de toxicomanie.
Okay.
Mais pourquoi qu'on a fait publier cette lettre? Parce que malheureusement, il y a des tragédies de cet ordre depuis quelques années là, qui arrivent. Et à chaque fois, c'est les mêmes discours qui ressortent et c'est les mêmes demandes venant de la part et des parents et de l'Association des médecins psychiatres qui disent qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour pouvoir hospitaliser les personnes contre leur volonté, les traiter, tout ça, et qui demandent qu'il y ait une diminution dans les droits, dans l'exercice des droits des personnes qui vivent un problème de santé mentale. Alors, c'est pour ça que nous, à chaque fois, on sort pour dire on pense pas que c'est la solution.
Non,
parce que diminuer les droits d'une catégorie de personnes dans notre société, ça va diminuer les droits de tout le monde dans notre société. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a un manque de services dans la communauté. Ceci étant dit, je pense que malheureusement, il n'y a rien qui pourrait faire en sorte de protéger et les personnes et la société de toute tragédie. Ça, je pense qu'il faut
clair.
Le camper.
Oui.
C'est que, mais je pense qu'on pourrait, il pourrait avoir amélioration dans les services, entre autres, de proximité des gens, proche du monde, dans leur quartier, proche de... Et vous savez, quand j'ai un problème de santé mentale et que je vais pas bien, j'en ai pas 32 solutions. Hein. Si je vais vraiment pas bien, je risque de me retrouver à l'hôpital, sur un département à l'urgence ou sur un département de psychiatrie.
Ouais.
Les autres moyens mis à ma disposition,
c'est
il n'y en a pas des masses. Ben, c'est ça, c'est que à Montréal, il y a quelques centres de crise, donc un endroit où il peut y avoir de l'hébergement, où il y a un intervenant avec qui je peux discuter, je peux aussi quitter peut-être pour quelque temps l'endroit où je vis pour aller vraiment prendre du temps pour moi, prendre du temps
pour guérir,
diminuer ma tension. Guérir, écoutez, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup
au
niveau de la santé mentale. Non,
mais je suis contente d'avoir fait l'erreur parce que c'est important de le savoir.
Oui, d'ailleurs, je pense que c'est un grand drame pour la psychiatrie, en fait.
Ouais.
La psychiatrie, la médication, ça atténue les symptômes.
Okay.
Et les gens apprennent à vivre avec les difficultés qu'ils ont. Guérir, écoutez, guérir, mon Dieu.
Oui.
Oui, c'est une vaste question.
Oui, je pense que là, je vous ai lancé sur une piste.
Oui, non, c'est moi, pas
d'autre. Écoutez. Non, c'est bien si.
Oui,
mais,
oui.
Non, mais c'est
oui,
important
oui.
Qu'on en parle. Je voudrais quand même peut-être préciser, je ne l'ai pas dit tantôt, que M. Gingras, en question, malheureusement, sur son chemin, il a croisé la mort parce qu'il a tué deux personnes. Hein, c'est
exactement.
Bien ça. Donc là, on parle de... Non, mais c'est pour ça que c'est un sujet de l'heure et dont il faut parler. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? Écoutez, madame, pas plus tard que ce matin, une femme s'est avancée vers moi. Elle était à peine habillée. Je veux dire, elle était très... Et c'est évident qu'elle était marquée par la prise de drogue et par tout ça. Ça se voyait, c'était... Et elle m'a demandé de l'argent pour prendre un café. Peu importe pourquoi elle va utiliser l'argent. Mais là, je l'ai regardée, puis je lui ai dit, « Madame, qu'est-ce que vous faites dehors? Il fait moins 20. » Alors, je lui ai dit, « Est-ce que vous connaissez un endroit? » Elle me dit, « Oui. » Je lui ai dit, « Pourquoi vous n'y êtes pas? » Mais, vous savez... C'est parce que moi, avec ça, j'habite un quartier où on en a malheureusement à tous les coins de rue ici, dans le quartier Centre-Sud. Mais alors, c'est ça. Je voudrais rappeler quand même le nom de votre association de groupe de défense des droits en santé mentale du Québec. Alors, vous luttez beaucoup. Qu'est-ce que vous demandez en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Vraiment...
Ben, écoutez, nous, ce qu'on réclame depuis longtemps, puis je suis pas sûr que ça va marcher, mais enfin, bref, vous savez, tout le budget qu'ils ont en santé mentale au Québec, écoute, à 95%, ça s'en va dans les institutions. dans les grandes institutions. Au Québec, vous savez, on a développé depuis une trentaine d'années tout un réseau d'organismes communautaires, d'organismes alternatifs, des organismes d'hébergement, des services de crise, des groupes d'entraide, des groupes de défense de droits, qui est peut-être presque unique dans le monde, j'oserais dire. Et ce qui est dommage, c'est que notre ministre de la Santé, il ne saisit pas cette belle opportunité pour dire, il y a tout un système qui est différent, qui est en place, qui est proche du monde. Allez, finançons-le
comme
il faut, et pour qu'il puisse vraiment donner des services. Oui. Malheureusement, nous sommes dans une époque où tout est tourné vers le biomédical. C'est important qu'il y ait des services psychiatriques, la médication, qu'il y ait dans des circonstances l'hôpital. Mais je suis une personne qui vit un problème de santé mentale. Quand je sors de l'hôpital, là, je m'en vais chez nous, je suis tout seul, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'amis, Donc, tout ce tissu social qui est hyper essentiel. Écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je fais ce métier et j'ai entendu souvent des personnes dire « Vous m'avez sauvé la vie. » Parce que ils se retrouvent avec des personnes qui vivent des choses semblables à eux. Ils expérimentent l'entraide. Ils s'impliquent dans des comités, sur des conseils d'administration. Oui. Ils reprennent vie.
Oui, oui.
Hein? Et c'est ça qui manque.
Oui.
Et puis
ça manque cruellement d'humanité et d'humanisme.
Oui, parce que vous savez, la psychiatrie, puis je trouve que des événements comme ça, là, ça nous montre un peu l'échec de la psychiatrie.
C'est clair. Hein? Mais oui,
c'est clair parce que, vous savez, des gens là, qui l'ont vécu, la psychiatrie, ils vont tout faire pour ne jamais y remettre les pieds.
Exactement.
C'est pas leur maladie, ça.
Non,
c'est parce que les conditions à l'intérieur des départements de psychiatrie, les gens, ils veulent plus jamais vivre ça. Quand, vous savez, je suis sur un département de psychiatrie et que je risque, si je lève un peu trop la voix ou si je m'agite trop, je risque à tout moment de me retrouver dans une salle d'isolement attachée sur un lit.
C'est sûrement pas la solution, non, évidemment, et puis ça ne tente personne. Madame Provencher, Doris, malheureusement, j'ai d'autres nouvelles à donner à nos auditeurs, mais c'est un plaisir de vous entendre parler. Malheureusement, ce n'est vraiment pas un plaisir d'entendre parler de ce problème-là qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution, mais je me dis, au moins, tant qu'il y a des gens comme vous, il y a encore des gens qui vont monter aux barricades, puis qui vont dire, il y a un problème.
Oui, ça, je vais toujours monter aux barricades.
Et nous de même, madame.
Ben, je sais
c'est notre rôle à Canalem.
Ben oui, et je vous remercie de m'avoir invité pour me permettre de dire ces choses.
Ça nous fait plaisir, madame. Et puis, vous savez, tenez-nous au courant, hein, parce que si on peut faire quoi que ce soit pour l'association dont vous êtes la directrice, nous vous réinviterons, évidemment.
Ben, ça me fera toujours plaisir.
Merci, madame Provencher. Bon courage. Au revoir.
Au revoir.
À Québec, la demande pour le transport adapté explose. La hausse de l'achalandage ne s'est pas traduite par une augmentation du financement. La demande en transport adapté a presque doublé en 10 ans à Québec et ce phénomène qui s'observe partout découlerait en bonne partie du fait que les handicapés ont des vies de plus en plus actives et des loisirs de plus en plus variés. Reste maintenant à le financer. C'est un texte d'Isabelle Porter à Québec, dans le Journal de Québec. Depuis 2005, le nombre de déplacements a augmenté de 94% dans la capitale, a fait savoir mercredi dernier Alain Mercier, le directeur du réseau de transport de la capitale, le RTC. C'est beaucoup plus que la hausse du reste de la clientèle, qui s'établit à plus 19%. Le financement pour le service de transport adapté, la STAC, ne suit toutefois pas la cadence, selon M. Mercier. Depuis 2012, les programmes ne sont pas bonifiés et la demande ne cesse de croître. La hausse de la demande est généralisée selon l'Office des personnes handicapées. À la grandeur du Québec, le nombre de déplacements annuels est passé de 4,6 à 7,9 millions entre 2002 et 2013. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une meilleure participation sociale, a indiqué le porte-parole de l'Office, Michael Watkins. Il y a plus de gens qui vont à l'école et qui travaillent. En guise de solution, Monsieur Mercier dit notamment chercher à rendre les autobus ordinaires plus accessibles pour certaines personnes handicapées. Selon Madame Fauché, ce n'est pas une mauvaise idée, mais certains ont besoin d'accompagnement. Ça demanderait peut-être une attention particulière des chauffeurs ou des formations. L'Office des personnes handicapées estime par ailleurs que le financement n'explique pas tous les problèmes d'efficacité des services offerts au Québec. Selon Monsieur Watkins, les services sont très inégaux. Oui, c'est ça, c'est M. Watkins. Les services sont très inégaux d'un endroit à l'autre et il faut d'abord les optimiser pour s'assurer que les gens ont accès au même niveau de service partout. Et nous la retrouvons sur nos ondes. Elle est conseillère en inclusion sociale pour l'Association québécoise des personnes de petite taille. Nathalie Labelle, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, très, très bien aussi. Je vous remercie. Nathalie Labelle, je voudrais, en quelques mots, que vous nous représentiez peut-être votre organisme pour les gens qui ne vous connaîtraient pas.
Certainement. Bien, je représente l'Association québécoise des personnes de petite taille, les gens qui ont le nanisme. Donc, nous, c'est on favorise l'intégration sociale, scolaire et professionnelle des personnes qui ont le nanisme. On représente, on soutient, on aide les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est de petite taille. Donc, on fait de la défense des droits auprès des différents intervenants du gouvernement, du milieu, tout ça. Là.
Alors, on prend encore un peu trop le nanisme à la légère, hein, Madame Labelle, malheureusement.
Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'améliorations.
C'est agréable à entendre quand même.
Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'améliorations, mais effectivement... Nous, on travaille beaucoup pour le changement de l'image de la personne de petite taille, la personne qui a le nanisme dans les médias, pour défaire les préjugés. Ouais. Parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur la personne qui a le nanisme, des fois, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau social, au niveau scolaire, de l'infantilisation, que nous prennent encore pour un personnage à cause de tous les contes et les histoires qui existent. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est tout l'aspect médical derrière la petite taille. Parce que la petite taille, c'est une caractéristique parmi plusieurs autres.
C'est ça.
Toutes les personnes qui ont le nanisme ont une maladie qui est osseuse à la base.
Douloureuse, hein?
Ça peut être effectivement
ça peut être douloureux.
Il y a un suivi médical assez élevé. Tout ça, des spécialistes en orthopédie, en physiatrie, en neurochirurgie, ORL, pneumologue. Donc, il y a énormément de suivi, autant chez l'enfant que chez l'adulte. Et il y a beaucoup de complications qui peuvent en résoudre. Il y a beaucoup d'opérations que les personnes ayant un nanisme peuvent subir.
Est-ce que ça peut être suffisant, je m'excuse à Mme Labelle de vous interrompre, est-ce que ça peut être suffisant, par exemple, pour un employeur, pour reculer, pour embaucher cette personne-là? C'est-à-dire non pas à cause du fait que c'est une personne de petite taille, mais à cause du fait que cela implique peut-être justement des traitements, des opérations et donc de l'absence.
Bien, souvent, ce qui va faire reculer l'employeur, c'est l'inconnu. Parce que les gens ne connaissent pas le nanisme. Les gens ne connaissent pas comment vit la personne qui a le nanisme. Donc, je peux vous donner un exemple on envoie notre curriculum vitae, on passe une entrevue au téléphone, tout est merveilleux, tout est beau, l'employeur nous convoque en entrevue à telle date, et lorsqu'on arrive pour l'entrevue, juste en nous présentant, là, on voit dans son attitude, dans son visa, que ça change. Il cherche une excuse. L'emploi, finalement, est comblé. Ou bien, je me suis trompée, on n'a pas la bonne date pour l'entrevue. Quand tu vois que c'est un préjugé.
Bien sûr,
oui. Tandis qu'un autre employeur qui peut se poser les mêmes questions, qui peut être surpris lui aussi, va faire passer l'entrevue afin de mieux connaître la personne et aussi va peut-être poser des questions. Est-ce que c'est compliqué au niveau des adaptations pour le travail? Oui. Est-ce que vous allez être plus souvent absent? absent du travail.
Et c'est normal. Ça, c'est
normal.
C'est normal.
Ouais. Et ça, c'est très positif, là, la personne. Parce que, veux pas, toutes les personnes qui ont le nanisme n'ont pas les mêmes suivis médicaux, n'ont pas les mêmes problématiques. Il y en a pendant toute leur vie, auront aucune opération. Cependant, d'autres vont en avoir quelques-uns pendant qu'ils sont enfants, mais à l'âge adulte, en auront plus.
Non, c'est
donc, c'est du cas par cas pour chaque personne. Et souvent, quand on parle d'adaptation, c'est pas nécessairement très coûteux et très compliqué à faire non plus. Et donc des fois aussi, le préjugé de l'employeur va être auprès de l'image.
Ah, oui.
Oh, moi, ma compagnie, qu'est-ce que je...
Mais
qu'est-ce
oui.
que les autres vont dire que j'ai une personne de petite taille à mon emploi? Donc, de là, les préjugés, les stéréotypes et tout ça. Donc, ben, là encore, c'est de mieux en mieux.
C'est de mieux en mieux.
Il y a beaucoup de nos membres qui ont des très bons emplois et qui performent. Ou des fois, dans le domaine de professionnel, ben, à cause des stéréotypes ou des préjugés, l'infantilisation, ben, les postes plus haut placés dans l'entreprise vont peut-être pas être accordés à une personne de petite taille. Donc, la personne de petite taille va garder les postes de base, mais les postes de plus haut dans l'entreprise, là, ils vont peut-être être plus difficiles à avoir. Donc,
c'est fou, hein?
Encore là, ça dépend du domaine, ça dépend de la personne, ça dépend comment que la personne vit aussi avec sa propre condition.
Oui.
Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'expliquer et sont mieux dans leur peau. Il y en a d'autres que c'est différent. Là,
oui, oui, oui. Mais ça, on retrouve ça aussi avec les personnes qui n'ont pas le problème du nanisme.
Ah,
ça, là, à partir de là, c'est un problème de personnalité, quoi.
Définitivement.
Il y a des gens qui vont s'imposer et d'autres qui ne vont pas s'imposer. Mais en tout cas, vous êtes là pour aider ces personnes-là, pour les guider, pour les soutenir aussi, j'imagine.
Effectivement, on a régulièrement des appels de personnes de petite taille qui sont à la recherche d'emploi, qui veulent savoir comment procéder, quel domaine est plus favorable ou quelle adaptation, des ressources pour les adaptations. Donc, c'est un des domaines qu'on travaille, effectivement.
Bon, ben, écoutez, Madame Labelle, je vais vous laisser là-dessus. Malheureusement, vous savez que l'heure tourne.
Je pense qu'on va peut-être avoir l'occasion de se reparler dans le futur.
Oui, avec grand plaisir.
Effectivement, ça va me faire plaisir de vous reparler bientôt.
Oui, absolument. Surtout si vous avez, comme on dit, un dossier chaud sur la table.
Oui,
rappelez-nous.
Ben nous, on en travaille souvent, puis on va avoir notre colloque qui s'en vient au mois de septembre 2017.
Bon, alors on aura le temps à ce moment-là, de pouvoir en reparler.
Oui,
alors.
C'est ça.
Fantastique.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Madame Labelle, conseillère en inclusion sociale à l'Association québécoise des personnes de petite taille. Bonne journée, Madame.
Joyeuses fêtes, au revoir.
À vous aussi. Par actualité nationale, un étudiant handicapé sur 10 décide de mettre un terme à ses études prématurément à cause de son handicap. Voilà l'une des constatations diffusées par la Commission canadienne des droits de la personne à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui a été célébrée, vous le savez, le 3 décembre chaque année. Et cette constatation provient d'une étude nationale à paraître bientôt qui porte sur les personnes handicapées inscrites dans les écoles secondaires, collèges et universités du Canada. Dans une économie du savoir où l'éducation est primordiale, il est troublant de constater encore aujourd'hui qu'autant d'étudiants handicapés mettent fin à leurs études parce que leur parcours scolaire est parsemé d'énormes obstacles, souligne la présidente de la commission, Marie-Claude Landry. Comment notre société peut-elle aider l'ensemble des étudiants et étudiantes à vivre leur potentiel quand leur parcours scolaire est dans certains cas une lutte quotidienne pour ne pas être exclu, tenu à l'écart ou intimidé? L'étude a aussi permis de constater que les étudiants handicapés se voient parfois refuser par l'établissement d'enseignement le soutien, le financement, les programmes et l'infrastructure dont ils ont besoin pour obtenir la même qualité d'instruction que le reste de la population étudiante. Les étudiants handicapés disent réduire le nombre de leurs cours ou mettre un terme à leurs études purement et simplement à cause de leur déficience. Quelques chiffres. En bref, intimidation. 27% des personnes handicapées qui étudient dans une école secondaire, un collège ou une université du Canada se font intimider à cause de leur handicap. 35 % des étudiants handicapés du Canada disent être tenus à l'écart ou exclus à cause de leur handicap. 37 % des étudiants handicapés au Canada réduisent le nombre de cours qu'ils suivent à cause encore de ce handicap et 11 % des étudiants handicapés décident de mettre un terme à leurs études prématurément, toujours à cause de ce handicap. C'est la Commission canadienne des droits de la personne qui est à l'origine de ce papier. Par actualité internationale, voilà peut-être une idée à donner à d'autres. Il est question du Maroc et de l'ONCF. L'ONCF, ce sont les chemins de fer, c'est le service de train au Maroc. Eh bien, l'Office national des chemins de fer, l'ONCF, lance un nouveau service inédit qui s'appelle Accès PMR. Objectif, faciliter les voyages des personnes à mobilité réduite, d'où PMR. Cette annonce se traduit par de nombreux aménagements en gare et sur le matériel roulant, ainsi que par une formation dispensée au personnel front office pour une meilleure compréhension des besoins des PMR. Indique l'ONCF dans un communiqué, des équipements destinés à améliorer l'accessibilité seront installés progressivement au niveau des gares, l'espace d'accueil et de vente adapté, les sanitaires pour les PMR, les places de parking, etc. Et même à bord des trains. Et là, il y a une photo où l'on voit une espèce de chaise roulante gigantesque. En fait, c'est comme une plateforme sur laquelle les gens qui sont en fauteuil roulant peuvent monter. Et là, ils sont poussés par des employés. Et lorsqu'ils arrivent au train, les plateformes montent et ça permet à la personne en fauteuil roulant de pouvoir rentrer dans le train, entre autres. Ça fait partie des choses qu'on installe en ce moment au Maroc. Alors, on peut rêver. En rafale maintenant, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain tient à vous informer que le service d'aide bénévole sera fermé durant la période des fêtes, soit du 23 décembre 2016 à compter de midi jusqu'au 16 janvier 2017 inclusivement. Le service reprendra à compter du 17 janvier à partir de 8 heures. Rouler pour vaincre la SLA, vous pouvez aller déjà sur le site car vous pouvez déjà vous inscrire. Pour le 10e anniversaire de l'événement, on vous donnera rendez-vous du 25 au 27 août 2017 dans la magnifique région de Vaudreuil-Dorion en Montérégie pour faire du vélo. 3 jours, 2 jours ou 1 journée, là c'est vous qui allez pouvoir choisir votre option. Il suffit d'aller sur le site Rouler pour vaincre la SLA. Voilà, ainsi s'achèvent les paractualités en ce 15 décembre 2016. Merci beaucoup à mes camarades. Merci à Martin Forgue, Anne-Laure Janson. Merci aussi à Mathieu Tessier de m'avoir donné un grand, grand coup de main ce matin encore. Merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour les paractualités à 11h30.